Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Bonjour à tous, nous voici donc une nouvelle fois dans l'arène de l'écologie, dans les arènes de l'écologie. Alors aujourd'hui, on a un plateau extrêmement rempli avec beaucoup d'invités pour vous parler d'un sujet un peu particulier, puisque pour une fois on prend de l'avance. Donc on peut vous parler des municipales qui auront lieu dans un an, donc municipales J-365 ou municipales un an avant. Et la question qui se pose, c'est pourra-t-on mettre l'écologie au programme? Et pour en parler, on a donc Henri Fraisse, qui est un spécialiste de ce sujet, qui est un, comme nous, un petit peu un vétéran du développement durable, qui tenait avec Pascal Fressos et puis nos autres invités, Jean-Luc Aiguin, des Écomères, un colloque la semaine dernière, le 28 février, donc ça fait plutôt bientôt 15 jours, un colloque au Sénat sur cette question, mettre l'agenda 2030 des objectifs du développement durable au programme des élections municipales de 2026. Et donc on a avec nous également quatre étudiantes de Nanterre, de disciplines tout à fait différentes, mais on verra ça les détails tout à l'heure. Donc il y a Naïs, Méline, Joaline et Nora, qui sont toutes adhérentes et militantes actives de l'association Univers. Univers, voilà. Bon, elles nous donneront tous les détails. Donc elles sont très impliquées sur ces sujets-là. On va aussi commencer par faire notre petit tour d'actualité avec notre ami Ben qui va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton tour du monde international parisien? Qu'est-ce qui t'a frappé?
Eh bien, ça remonte à une vieille histoire de Monsieur Trump, mais ça fait maintenant quand même un mois que ça commence à virer ou à vriller. En l'occurrence, vous avez l'agence qui est l'équivalent de la NASA, mais qui s'intéresse très particulièrement à tout ce qui est océanographie et atmosphère, la NOAA, N-O-A-A. Elle a reçu l'interdiction par la Maison Blanche de donner la moindre information à son partenaire principal qui est IFREMER, l'institut français qui s'occupe justement de l'exploitation de la mer, qui est basé à Brest et que tout le monde connaît. Depuis un mois, il y a interdiction de faire le moindre commentaire. Alors ça plombe complètement deux ministères, le ministère de la Recherche et le ministère de
la mer,
la transition énergétique. Ah. Non, le ministère de la mer, c'est encore une autre histoire. Mais on y reviendra. Mais je voulais insister là-dessus parce qu'on a eu le vendredi 7 mars, c'est il n'y a pas si longtemps, il y a eu quand même une grande mobilisation en France sur cette nouvelle entorse à la démocratie qui est cette guerre contre la science. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et d'ailleurs, j'ai même appris, mais c'est important pour l'anecdote, que le bombardier qui a servi pour bombarder Hiroshima en août 1945 et qui s'appelait Enola Gay a été interdit parce qu'il y a le mot gay et donc le gouvernement des États-Unis a décidé que tout ce qui concernait Enola Gay serait dans les poubelles de l'histoire.
D'accord, donc le sens du ridicule est encore frappé, quoi.
Voilà, ça c'est...
Mais bon, justement, question de petite correctif, c'était samedi 8.
C'était samedi 8.
La manif. La manif qui partait de Jussieu, qui allait au Collège de France.
Je crois que c'était le vendredi 7.
Non, eh ben non, c'était samedi 8.
Bon, d'accord. Oui. C'est vendredi, non?
Ah bon? Ah bon, alors c'est moi qui yoyote, alors.
Ça ne songe rien au fait qu'il y a une mobilisation qui va continuer. Ifremer est prêt d'ailleurs à accueillir une grande partie des chercheurs qui vont être virés de la NOAA, la N-O-A-A, donc cette agence dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a tout un mouvement qui vise en France aussi, mais même dans toute l'Europe, pour essayer d'accueillir tous les scientifiques qui n'auront plus le droit de continuer à exercer leur métier aux États-Unis. Donc ça, c'était ma petite chronique d'actu dans le monde. Monsieur François,
eh bien, moi, je
à toi de jouer, puisque oui. Nous sommes toujours sur Aligre FM.
Dans les arènes de l'écologie, tous les mercredis de 19 à 20 heures. Bien moi, c'est les petites nouvelles de l'hôtel de Rococleur. Alors, je vais expliquer ce que c'est que l'hôtel de Rococleur. Donc, ce n'est pas la marque de cassoulet. C'est c'est le nom de l'hôtel du ministère de l'Environnement. Donc, depuis le début de cette émission, on parle de l'agenda de Madame Agnès Pannier-Runacher, que même dans les communiqués de presse, on qualifie de APN. Maintenant, les communicants...
Les acronymes sont,
voilà, c'est ça,
sont à la mode.
Donc j'ai fini par comprendre que le APN était Agnès Pannier-Runacher. Et bon, je trouvais que si mon oui, t'as raison, APR. Voilà, je suis vraiment...
Runacher est un ancien du pétrole.
D'accord, un ancien des mines, voilà, effectivement. Ouais. Henri va nous...
Henri Fraisse.
Voilà, ouais. Henri Fraisse va nous corriger toutes les petites erreurs qu'on fait. Oui, alors, bon, ceci étant, on la brocarde depuis un petit moment, en disant qu'elle était à la plage, qu'elle s'occupait essentiellement de la mer, et qu'on ne voyait pas toujours
de quelle mer il s'agissait.
Voilà, et puis bon, qu'il y avait quand même peut-être beaucoup de mer et pas assez d'autres sujets. Et bon, bah, là, elle nous a carrément un peu corrigé. Elle a sorti enfin ce fameux plan national d'action contre pour le climat, qui est attendu depuis... Donc c'est la troisième version, qui était attendue depuis 6 mois, 7 mois. Alors c'est vrai qu'entre les dissolutions, les motions de censure et autres, sa tâche n'a pas été facilitée. Donc, le sujet était extrêmement attendu. Imaginez-vous, par exemple, qu'il y avait plus de 500 interlocuteurs journalistes en ligne sur le site Internet lundi matin entre 10h et midi, 11h30, donc, pour être précis. Donc, le sujet est extrêmement bien
avancé,
intéresse beaucoup de monde. Donc, c'est important, effectivement, 500, c'est quand même un sacré score. Alors, on ne va pas développer le sujet, j'ai déjà dépassé mon temps de chronique sur la question, mais on renvoie ça à une émission du mois de juin, où on rentrera sur, faire le point sur toute la planification, on rentrera dans les détails à ce moment-là. Juste pour terminer, il y a quand même plus de 52 mesures détaillées. Alors, bon, il y en a qui sont contents, il y en a d'autres qui le sont moins, mais... Il y a de la matière, c'est là l'essentiel. Après, je ne me suis pas fait d'idée sur le sujet, mais il y a de quoi matière. Et notamment, il y a un thème qui ressortait de cette conférence, qui nous ramène à notre sujet du jour, qui était une approche extrêmement centrée sur les territoires. Et quand on parle territoire, on n'est pas très loin des municipales. Et donc, on va pouvoir rentrer dans notre débat du jour. Comment mettre l'écologie au programme des municipales? Eh bien, on va commencer par notre premier invité, Henri Fraisse. Henri, on va te laisser te présenter. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais?
Le sens de ta vie.
Voilà. Et comment t'es tombé dans ce colloque? Qu'est-ce que c'était que ce colloque au Sénat sur les objectifs du développement durable que tu veux injecter dans les campagnes municipales, alors qu'il serait si bien de parler d'insécurité, de faits divers, de trucs rigolos comme d'habitude?
On peut partir de relativement loin, puisqu'on a des jeunes étudiants en face de nous. Et je dirais, moi, que cet intérêt pour l'environnement, il m'est venu à la lecture du livre de Rachel Carlson, qui fameux Printemps silencieux. Non. Que j'ai lu quand j'étais lycéen et qui a été le premier ouvrage qui a permis de limiter les insecticides et de l'interdiction du DDT aux États-Unis. Un monde, puis je reparlerai un petit peu de moi, mais je reprends juste un peu de recul. Un monde d'il y a 50 ans qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui, puisque il y a 50 ans, on était à peu près convaincu que les problèmes élémentaires, on pourrait les traiter les uns les autres, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous les problèmes sont liés les uns aux autres. Aussi bien d'ailleurs la dimension environnementale, la dimension sociétale, la dimension santé globale. Et cette approche en fait globale, moi j'ai eu la chance dans mon métier, puisque je suis géologue de formation avec une spécialité dans l'extraction minière, d'imaginer que la plus belle chose que je pouvais faire dans ma vie, c'était de trouver un gisement de façon à permettre à des pays en voie de développement de se développer. Convaincu de ce sujet-là, j'ai effectivement commencé à travailler en
t'as
Afrique.
T'as creusé la question.
Rencontrer un certain nombre de... D'abord, challenger les enjeux environnementaux, parce que tout gisement amène une transformation environnementale, et que tout gisement amène également des transformations sociales et sociétales. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les pressions que pouvait exercer une activité, et quelles conséquences il pouvait y avoir, ce qu'on appelle aujourd'hui des impacts. Aussi bien sur l'environnement, les différentes facettes de l'environnement, et sur les différentes facettes également sociales. Et je suis convaincu également en parallèlement qu'il y avait un rendez-vous important qu'il fallait savoir gérer, c'est qu'on était dans une bulle dans laquelle l'énergie était artificiellement beaucoup trop bon marché et qu'on raisonnait avec... dans un environnement dans lequel on considérait que l'énergie était facile et disponible. Ce qui est évidemment complètement faux quand on le voit de l'intérieur, même quand on extrait, que ce soit du charbon, que ce soit de l'uranium, ou même qu'on extrait du pétrole, ce n'est pas neutre et de toute façon, ce n'est pas infini. Donc très vite, je me suis réinterrogé à la lecture du rapport Meadows sur les ressources.
Club de Rome 72.
Ressources et développement économique. Donc j'ai lu évidemment avec intérêt en 87 le rapport Brundtland qui disait finalement tout ça c'est lié, il y a une bulle sur l'économie, il y a une bulle sur l'environnement, il faut ne pas hypothéquer les générations futures et il y a une bulle sur le social, c'est-à-dire que tout monde qui n'est pas... social, qui n'éradique pas la pauvreté, ne peut pas être durable.
D'accord.
Depuis cette période, jusqu'en, je dirais, 2015, on a vu alternativement les différents acteurs ou responsables économiques mettre un coup le focus sur les droits de l'homme, un coup sur l'environnement, et ainsi de suite, et faire des grands discours sans finalement définir une trajectoire commune, sans non plus essayer de quantifier. Et cette première quantification, elle a eu lieu finalement en 2015 avec ce qu'on a appelé les objectifs de développement durable. Un certain nombre de pays, les 194 pays de l'ONU, avaient été réunis depuis 2012 pour essayer de sortir une nouvelle directive, une nouvelle orientation, équilibre, environnement ou social. C'était pratiquement le désespoir de ne pas arriver à construire quelque chose. Et nos amis colombiens ont dit « Mais attendez, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on a en commun. Et si on les listait, on arriverait à construire quelque chose. » Et ce miracle s'est posé, parce que moi je considère que c'est effectivement un miracle, c'est un cadeau du ciel, si j'optique le développement durable, parce qu'ils abordent une approche systémique, c'est-à-dire que tout est lié, que quand on prend de l'eau, évidemment, c'est pas neutre pour la santé, que c'est une approche holistique multivariable, et que la problématique, c'est exactement la même entre le Nord et le Sud, puisque jusqu'à présent, on avait toujours entendu que le Nord et le Sud, c'était pas les mêmes sujets. Voilà un peu comment, moi, j'ai plongé dans les ODD, et j'avais développé plein de référentiels autrefois, ODD, et je n'en retiens qu'un seul.
Objectifs du développement durable.
Ce sont les objectifs du développement durable qui ont été résumés en 17 objectifs, eux-mêmes déclinés en 164 cibles, et pratiquement 200 indicateurs, dont 98 ont été retenus en France.
Donc
on a une trajectoire et une quantification.
Donc, monsieur l'ingénieur,
on va pouvoir travailler.
C'est bien d'avoir des questions-réponses.
Voilà. Vas-y. Donc, effectivement, c'est c'est un peu du monitoring, c'est grosso modo donner des objectifs communs à l'ensemble de la planète. Tu fais remonter ça à 2015, mais moi j'avais l'impression que le développement durable avait commencé bien avant, mais on pourra peut-être en reparler.
Mais c'était les objectifs du millénaire pour le...
Voilà, donc à un moment ou à un autre, il faudra nous expliquer la différence entre les objectifs du millénaire, etc. Mais pas maintenant, parce que maintenant, ça va être...
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc maintenant, on va donner la parole à nos invités qui sont venus en masse pour représenter la nouvelle génération. C'est un petit peu ça le but du jeu. C'est que, on l'a vu, les objectifs du développement durable ou développement durable, c'est un peu déjà la préhistoire. Je suis désolé, on fait partie de ça. Puis en plus, je dirais que c'est vrai que ça fait des années qu'on annonce les choses. On commence à les voir arriver. On se dit que les objectifs 2030, on va les connaître de près. 2050, ça commence à devenir un peu plus incertain pour nous. Mais par contre, il y a une chose dont on est certain, c'est que ça va être votre génération qui va être confrontée à la chose. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, ces objectifs, ce contexte? Qui veut parler? Méline, Joaline? Allez, Joaline, qui est étudiante à Nanterre en psychologie, c'est ça? Voilà, allez, je te laisse parler. Vous nous expliquerez aussi au passage ce que c'est que votre association Univers. Mais bon, vous répartirez la... On a 6 minutes pour traiter la question. Allez, vas-y, Joaline.
Alors, pour traiter la question de comment on voit l'avenir et comment toutes ces questions seront traitées, c'est vrai que nous, notre génération, ça nous fait un peu peur parce que aux dernières élections présidentielles, c'est vrai qu'il y avait beaucoup cette question de l'environnement qui revenait et c'est sûrement parce qu'on surfait encore sur la vague du Covid qui a montré à quel point... le retrait des activités humaines pouvait être bénéfique pour la biodiversité. Mais c'est vrai que maintenant, 4 ans plus tard, si je ne dis pas de bêtises, après ces élections présidentielles, on voit une réelle banalisation de cette urgence environnementale. Trump nous le montre avec ses 30 000 résolutions anti-écologistes. Et Macron ne nous en parle pas du tout. On voit bien que dans les médias largement diffusés, les questions écologiques ne sont pratiquement jamais mentionnées. Pour s'informer de tout ce qui se passe, il faut creuser, aller voir, aller dans les médias plus indépendants. Donc voilà, nous, ça, enfin du coup, on est 4 étudiantes qui avons une association écologiste dans l'Université de Paris-Nanterre. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que sur 80 associations, on est la seule association écologiste présente à la fac.
Et elle s'appelle ?
Les Univers Nanterre. Et donc on n'est que 30 membres, mais du coup 10-15 actifs. Donc voilà, on essaye de mettre en place beaucoup de projets. Mes collègues en parleront aussi. Et voilà, enfin, on est vraiment dans une... comment dire ? Dans une éco-anxiété, si on peut... voilà, c'est ça. Je te passe le micro, Méline, si tu veux.
Oui, merci. Oui, moi, pour ajouter à ce que Joaline a très bien expliqué, c'est un peu ce regard par rapport aux ODD et l'écart qu'il y a avec l'actualité de tous les jours et qui, pour des étudiants, enfin en tout cas pour notre génération, qui peut rendre très anxieux et on a l'impression qu'on...
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ?
C'est quoi le décalage ?
Un exemple. Entre tous les objectifs, je pense notamment à la justice et à la paix, par exemple,
la lutte. 16,
c'est la 16, exactement. Et voilà, je trouve ça très difficile de faire face tous les jours aux actualités qui déclinent vraiment. Et donc, c'est vrai que l'association me permet, à mon échelle d'étudiante, en train d'apprendre encore beaucoup de choses, ça me permet de me rendre utile et de faire face comme je peux et d'aider aussi à ma taille à rendre le monde
meilleur.
Meilleur. si je peux dire ça comme
moins,
ça.
Au moins inquiétant, quoi, déjà.
Déjà, voilà.
Alors justement, s'il y avait des priorités, peut-être Nora ou Naïs pourraient nous les donner. Quel est le sujet qui vous...
taraude le plus.
Qui vous... Voilà, qui vous taraude.
Alors, les sujets qui nous inquiètent le plus, ça va être... sur le point de vue de l'écologie, ça va être relativement le changement climatique et l'inactivité des États, en fait, qui fait que petit à petit, on en entend beaucoup moins parler. On se demande quand est-ce que ça va être la fois de trop ou ça va permettre aux gens de bouger, de changer les choses. Donc c'est vrai que pour ma part, c'est quelque chose qui est assez préoccupant, en fait. Parce qu'à notre échelle, malheureusement, même si on fait des choses... à notre toute petite échelle, bah malheureusement, si on n'a pas de l'aide des États ou des grandes entreprises, on ne pourra pas faire grand-chose. Et donc, oui, c'est l'attente de résultats et de savoir ce qu'il faut de plus.
Ok, bah écoutez, on va reprendre le sujet. Naïs, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'ai vu manifester. Ah non, je levais juste le pouce.
Non, c'était une approbation.
Ah d'accord. Bon, bah écoutez, on va lancer la musique alors. Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Donc, on écoutait Hot Vax, un trio de trois anglaises qui envoient du bois, quoi. Donc, bon, maintenant, en parlant de filles énergiques, eh bien, justement, on en a une en ligne avec Pascal Fressos, qui animait il y a pas si longtemps que ça le colloque. Bonjour Pascal, tu nous entends? Il faudra que tu parles fort parce qu'on a des petits problèmes techniques, là. Mais alors attends, on t'entend pas, il faut que Henri donc recommencer.
La sono.
Vas-y, tu peux reparler, Pascal.
Oui, je disais bonsoir, absolument ravi d'être à vos côtés ce soir, même à distance, et désolée de ne pas être à Paris à vos côtés, mais j'ai bien entendu effectivement les témoignages poignants de Anaïs et Joaline, et effectivement c'est aussi la raison pour laquelle on se bat au quotidien dans la perspective d'une meilleure intégration des ODD au niveau des territoires et des entreprises.
Alors, tu nous appelles de Savoie, hein, pour que tout le monde soit au courant, ou Haute-Savoie, oui, je me mélange les... pinceau à chaque fois, tu me précises moi, parce que je crois qu'il y a une susceptibilité savoyarde sur le sujet des Hautes ou Savoie.
aucune susceptibilité à mon niveau, puisque du coup l'Alliance est basée en Haute-Savoie, à Admas. Voilà, et moi je réside en Savoie.
D'accord, ok.
Donc j'ai un pied dans les deux Savoies.
Parfait. Alors, donc effectivement, tu es tu animais, donc tu organisais le colloque au Sénat, donc qui mettait en avant les 17 ODD, même s'il y en a un 18 en prévision sur la culture, et on verra le sujet un peu plus tard.
Oui, c'est une proposition.
Voilà. Donc, comment tu vois, donc le sujet c'était comment mettre l'écologie au programme des élections municipales. Je rappelle, les élections municipales c'est dans un an. Les élections municipales, ça va être quand même la plus grande manifestation, la plus grande, comment dire, émission de démocratie réalité, puisque si j'ai bien compris, j'ai fait un petit calcul sur un coin de table l'autre fois, on va avoir pas loin d'un million de candidats. Donc je crois que la Star Academy est complètement explosée. Donc ça va être un moment fort, et c'est vrai qu'on a un peu tendance, comme disaient nos invités, que on parle beaucoup moins, ça commence à se banaliser la question de l'écologie. Alors effectivement, comment on va la mettre au programme, c'est quoi ton idée, Pascal?
Alors du coup mon idée, enfin on pense que véritablement dans tous les cas il y a beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui n'agissent pas, qui effectivement ont tendance aussi à dire que dans tous les cas ça ne marchera pas et que ça ne sert à rien de poursuivre. Et ça c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti avec les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD dont le but était d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici à 2015. Donc c'est un programme qui avait été développé par Kofi Annan à l'époque, et je m'indignais justement de voir une forme de pessimisme avant même d'avoir essayé. Donc c'est exactement pareil, dans tous les cas, les objectifs c'est un cadre structurant qui permet véritablement de construire des politiques publiques avec une approche globale et intégrée, en prenant en compte aussi bien la dimension écologique que la dimension économique, sociale, et aussi des questions de bonne gouvernance. Donc non, ce n'est pas ringard et ce n'est pas has-been, parce que dans tous les cas, les élus vont continuer à définir des politiques publiques, et aujourd'hui, trop souvent, elles sont définies avec une approche en silo, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, on va investir des millions dans un projet, mais on ne prend pas en compte l'ensemble des thématiques, comme par exemple la capacité à produire et à consommer autrement, c'est l'ODD numéro 12. On ne prend pas forcément en compte de manière systématique dans les politiques l'ODD numéro 5, comme la question de l'égalité, dont on parle par ailleurs. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie au niveau des collectivités territoriales, on parle de la gestion de la ressource en eau, des questions d'urbanisme, mais on n'a pas assez souvent cette approche globale. Et justement, les collectivités qui étaient présentes dans le cadre de notre séminaire organisé au Sénat le 28 février ont vraiment montré une capacité extraordinaire à travailler sur ces différents éléments en même temps, et elles ont montré aussi l'ensemble des énergies extrêmement positives que ça pouvait générer sur le plan humain.
Mais est-ce que,
donc,
est-ce que
c'est un vrai levier de vivre ensemble?
Oui, Pascal.
Et je pense que ça permettra de renforcer l'attractivité des collectivités.
Alors, est-ce que justement cette synthèse des ODD, c'est pas tout simplement ce qu'on pourrait appeler l'objectif du bonheur? Est-ce que c'est pas ça le bonheur? Parce qu'effectivement, quand il y a des moments, j'ai un peu l'impression qu'on parle à un expert comptable. Alors, il y a l'ODD 1, l'ODD 5, l'ODD 6. Est-ce qu'il ne faut pas nous trouver un terme un peu plus général, et peut-être que c'est le bonheur comme mot?
Mais on... Oui, alors pourtant on parle beaucoup d'indicateurs du bonheur, et effectivement il y a plusieurs outils aussi qui ont été développés, comme la théorie du donut, en se disant il faut qu'on puisse continuer en fait à vivre et à développer nos activités sans impacter bien évidemment les ressources naturelles, sachant que 6 sont déjà fortement impactés, et qu'il faut aussi prendre en compte ce fameux plancher social. Et effectivement, on peut peut-être trouver un autre nom.
Eh bien, écoute, Pascal, je vais être obligé de...
2030.
Voilà. Eh bien, écoute, on va demander à nos étudiantes de Nanterre, donc qui sont aujourd'hui les représentantes de la nouvelle génération, celle qui va vraiment s'affronter au grand changement, parce qu'il y a effectivement le changement du climat, mais il y a aussi le changement de la biodiversité, et puis il y en a pas mal d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il faut trouver est-ce que les mots, c'est les bons mots ou pas, là ?
Bah, en parlant d'objectifs du bonheur, moi, c'est vrai qu'en les lisant, j'ai l'impression que ça fait référence à un monde qui serait utopique, alors que je trouve que c'est triste de penser ça, parce que c'est censé être pour moi des acquis et non pas des objectifs inatteignables. Voilà, c'est...
Qu'est-ce qui devrait être des acquis ?
Tous les objectifs, l'égalité entre les sexes, l'accès à l'eau, à la nourriture pour chaque individu.
Oui, il n'y a aucun qui soit, extraterrestre, quoi, ces objectifs.
Et c'est ça que je trouve assez absurde, et en tant que jeune génération, de vivre dans un monde avec autant de paradoxes, d'absurdités, face à des choses qui devraient être, normales.
Allègre FM 93.1.
Alors, Joaline, qu'est-ce que tu voulais préciser ?
Ce que je voulais préciser, c'est ce qui me frappe, c'est à quel point on met cette responsabilité écologique sur, entre guillemets, les gens, c'est-à-dire quand est-ce que les gens vont s'activer, vont se rendre compte, etc. On sait que la sensibilisation et l'éducation, c'est un des piliers pour que tout le monde prenne conscience de la réalité écologique, mais je veux dire, sans réelle mesure des gouvernements et sans réel objectif des programmes, il n'y aura pas de changement. Ce n'est pas nous, en tant que citoyens qui n'ayons aucun pied dans la politique, qu'on va pouvoir changer les choses. On peut prendre conscience de l'urgence, mais c'est au niveau gouvernemental qu'on va pouvoir avoir de vraies actions. Donc voilà, je n'aime pas juste ce fait de responsabiliser les gens.
C'est très, très intéressant ce que tu dis, c'est qu'il faut effectivement un engagement, il n'y a pas tellement d'autres mots, un engagement un peu politique. Alors justement, il y a ces élections municipales, est-ce que vous avez jamais pensé à vous présenter sur une liste, aller au charbon, quoi, un peu aussi?
J'y ai pensé, après c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on est dans des filières différentes, donc nos objectifs sont différents, même si on a envie de s'engager à côté, et justement notre expérience associative nous permet de à côté de nos objectifs principaux, œuvrer un petit peu pour l'écologie. Voilà, après, ce que je voulais juste rajouter aussi, c'est que quand on regarde dans les statistiques, on voit que quand on pose la question aux gens, est-ce que vous seriez prêt à faire plus d'efforts pour l'écologie, la majorité des gens, des citoyens, disent oui. Ce qui manque juste, c'est les mesures gouvernementales.
Donc la société civile, le rôle de la société civile, ça suffit pas, quoi.
Son rôle est la prise de conscience et justement son acceptation des nouvelles réformes, et elle montre qu'elle accepte ces nouvelles réformes à chaque fois qu'il y a le peu de choses qui a été mis en place, c'est quand même accepté. Voilà, c'est, pour moi, c'est juste les mesures gouvernementales qui manquent, et la prise de conscience est quand même déjà là. Nous, notre génération en tout cas, on est très 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 informés, éduqués sur l'urgence climatique. On en parle beaucoup justement dans les médias indépendants qui sont dirigés par des jeunes, si je peux dire. Voilà, ce qui manque juste, voilà, c'est le gouvernement.
Nora voulait rajouter quelque chose ? Non. Bon, alors je vais commenter le commentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de la conscience écologique de la jeunesse est là. Par contre, est-ce que... Moi, j'ai l'impression que vous participez beaucoup, donc vous vous engagez, mais est-ce que vous prenez les moyens de prendre des décisions ? J'ai un peu l'impression que vous vous arrêtez avant prendre les choses en main, quoi. Oui, il y a un moment ou un autre, il va falloir y aller, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on peut, justement, en tant que citoyen qui on a d'autres objectifs, on peut se reposer sur les normes du gouvernement et pas prendre l'action comme vous le dites. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose.
Comment on s'approprie soi-même le...
Ouais, comment s'approprier, à part justement nous, à notre échelle, s'engager associativement.
Justement, alors peut-être que Jean-Luc Aiguin, qui est au bout du fil, qui est le vice-président des Écomères, qui a lui aussi une longue expérience de l'action et de l'action locale, va pouvoir nous apporter un éclairage. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc? Est-ce que tu nous entends bien déjà? Alors attends, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, le bon bouton. Voilà, c'est fait. Vas-y, tu peux y aller.
Voilà, oui, donc avant de parler peut-être du sujet, voilà, je vais rebondir sur ce qui vient de se dire. Moi, en 2000, je pars un dimanche matin et je dis on ne peut pas aller au 21e siècle comme ça, avec un maire qui va avoir 80 ans, sans projet, sans bilan. Voilà. Et bien, je crois que c'est la jeunesse, elle doit se dire ça. Voilà. Il faut y aller. Les discussions, les manifestations, c'est bien, mais après, pouvoir décider. Et c'est dans les conseils municipaux, dans les intercommunalités, que va se décider l'avenir de notre pays, de nos territoires. Et donc, je leur dis, voilà, il faut y aller. Vous allez avoir, dans ces conseils municipaux, des gens de tendances différentes, des gens d'âge différents, et ils vont vous accompagner, vous amener à être la génération qui ne doit pas être oubliée. Sinon, il va y avoir une génération sacrifiée. Donc voilà, c'est votre temps, mais sachez que, comme les écomères, nous sommes là pour accompagner.
Eh bien, c'est parfait. Effectivement, grosso modo, ce que tu leur dis, c'est qu'il ne suffira pas de participer et d'aller voter. Il faut maintenant non seulement s'inscrire sur les listes électorales, mais se porter candidat, quoi. Prendre des choses.
Voilà, parce que ce sont les élus qui agissent. Ce sont les élus qui agissent et qui décident.
Voilà.
Et on ne peut pas toujours être contre ce que font les élus sans vouloir y aller. Donc, il faut y aller. Et moi, je pense que la jeunesse a tous les arguments pour y aller. C'est leur monde. Les gens de mon âge seront bientôt dépassés par tout ce qui se passe. Et donc, il faut qu'ils passent le témoin, qu'ils soient des piliers, qu'ils soient, comment dirais-je, les fondations de ce monde sur lequel, eux, ils vont bâtir.
Alors, j'ai vu Méline tordre un peu le nez quand on dit « Allez-y, portez-vous candidat vas-y, Méline. Ouais. »
Non, mais c'est vrai que ma réaction, c'était... oui, par rapport au fait, moi, toujours... comment dire, ce paradoxe, en étant jeune, j'ai l'impression que je n'ai pas assez de clés, même si j'ai le futur et le nôtre... j'ai l'impression que je n'ai pas assez de clés, de connaissances pour moi-même me présenter.
Mais on n'est pas obligé d'avoir tous les savoirs. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un élu. Un élu, Jean-Luc, tu nous corrigeras, je parle sous ton contrôle. Oui. Mais c'est aussi, quelque part, d'être créateur d'intelligence collective.
Mmh. Bien sûr, un conseil municipal, c'est un ensemble. Quand je me suis présenté pour être maire, j'ai cherché des gens qui pouvaient apporter leurs compétences au service du bien public, de la commune, et des gens de tout âge, et des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, parce qu'on a besoin de ce mélange pour discuter.
Vas-y, Mélanie.
Je voulais rajouter que grâce à l'association, on a vraiment aussi ce côté du face-à-face avec d'autres étudiants, et on peut avoir justement des échanges, leur parler directement et avoir des débats sur ces sujets-là et peut-être permettre d'amener en eux une envie de se présenter également. Je pense que c'est vraiment dans le collectif et dans la transmission, dans l'oralité aussi qu'on
ouvre la pêche.
Voilà. Qu'on donne envie et qu'on a un peu ce côté de...
Parce que vous êtes très fédérateur, quoi.
Exactement.
On ne vous demande pas de tout connaître. D'ailleurs, j'imagine qu'une association comme les Écomères, que tu peux peut-être nous présenter rapidement, Jean-Luc, a des boîtes à outils, a des moyens de...
Vas-y, exactement. Donc, l'association des Écomères, elle existe depuis 35 ans. Donc, et depuis ces 35 ans, elle a formé, elle a informé, elle a réalisé, elle a valorisé, avec actuellement plus de 2000 collectivités qui y adhèrent. Elles font des choses, ces collectivités. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Elles font des choses. Les Écomères le font savoir, c'est une vitrine, et que ce soit dans tous les domaines du développement durable, voilà, c'est ça. Et ces collectivités, il y a des élus qui sont plus ou moins jeunes, il y a des hommes, des femmes qui se donnent pour leur collectivité, pour leur village, pour leur commune, et les jeunes ont beaucoup à apporter maintenant. Et il y a beaucoup de collectivités où il y a des jeunes qui sont déjà dedans. Et ce que je voudrais dire aussi maintenant, et ça se fait de plus en plus, il y a des conseils municipaux enfants jeunes. Et ça, c'est très bien, parce qu'ils sont accompagnés par des élus pour leur apprendre des choses, pour leur faire découvrir ces thèmes importants qu'ils ont en eux, mais aussi des possibilités d'agir avec des budgets également.
Alors effectivement, ça souvent ça s'adresse aux très jeunes, mais est-ce que les jeunes adultes ne pourraient pas avoir une espèce de statut d'élu apprenti, un truc qui soit un peu intermédiaire
Non, mais ils ont toute leur place. Moi, j'ai eu des jeunes qui étaient dans mes conseils municipaux qui étaient excellents. C'est pas parce qu'ils étaient jeunes, mais on apprend des uns des autres. Et puis, de la connaissance. Ils sont dans une commune, ils sont peut-être déjà impliqués dans des associations sportives, culturelles. Ils viennent pas de nulle part. Ils sont là, ils ont des parents aussi qui les ont, avec qui ils ont discuté la plupart, donc ils ne sont pas à l'état zéro, hein. Donc vraiment ils ont un bagage, et ce bagage il faut qu'ils l'amènent, et ils seront accompagnés par l'expérience des plus anciens, c'est ça qui compte.
D'accord, jingle. Ok.
Allô ?
Oui, bah, écoute, on t'entendait, effectivement, t'es tout à fait... convaincus qu'ils ont leur place. Bon, on va donner la place on va donner la place à la musique. Alors justement, c'est une petite musique. Allez, je vais vous la faire. C'est une petite musique de vieux. Vous allez voir. Donc c'était une musique de jeune, mais qui commence à prendre de l'âge. Quoi. Alors, c'est Neil Young qui faisait ses réglages. Normalement, voilà, c'est parti.
Searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. I've been a miner for a heart of gold.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc nous voici revenus dans les arènes de l'écologie. Bon bah écoute Jean-Luc, on va te laisser... lancer ton idée, là, tu me parlais quelque chose pendant la musique. Vas-y, je te mets en ligne et tu peux lancer ton idée. On t'écoute.
Voilà, donc l'autre jour, donc la ministre a fait des propositions d'action, et notamment de ce qu'elle a appelé des COP territoriales, avec les préfets et les présidents des exécutifs locaux. Et donc nous, des écomères, on rebondit un petit peu sur cette proposition en disant que nous nous sommes prêts à les organiser à différents endroits, notamment dans les collectivités qui sont adhérentes aux écomères, et ainsi mettre en route ces échanges et ces actions pour le prochain mandat, donc les gens aient des lieux de réflexion un petit peu partout en France.
Et donc voilà. Tu lances un appel à candidature pour que les gens viennent s'inscrire non seulement sur les listes électorales, mais participer aux conseils municipaux et se présenter comme candidat.
Voilà, et notamment te dire que tout un chacun est capable d'intégrer des conseils municipaux, et les jeunes, eh bien, c'est une force pour les communes. Voilà.
Voilà, donc on invite toute la jeunesse à faire acte de candidature, à se manifester, et puis on n'aura pas trop d'une année pour préparer tous ces grands chantiers.
Ça arrive vite.
Bon, en tout cas, les filles, vous avez vu le traquenard. Hein. Maintenant, vous n'allez pas repartir sans être candidate aux élections municipales. Ouais. Bon, une réaction, mademoiselle ?
Non, on voulait juste revenir sur le fait que, même à notre petite échelle d'association universitaire, on arrive à mettre en place des ODD du point de vue à plus petite échelle. On a notamment, par exemple, sur l'ODD 12, qui est sur la consommation responsable. Avec l'association, on fait des parcs zéro déchet, donc en collaboration avec des entreprises, pour pouvoir les proposer à 2 euros pour les étudiants, donc pour leur permettre de mettre leur consommation beaucoup plus zéro déchet. Ça peut être pour des produits alimentaires, ça peut être pour des produits d'hygiène. On a aussi notamment, pour la lutte contre le réchauffement climatique, on a mis en place un ciné-débat qui est le film Animal de Cyril Dion, qui est un écologiste, qui est un film qui parle de la protection animale. Et le but, c'est de pouvoir rendre plus accessibles les réflexions sur la faune et la flore, et donc permettre à des étudiants de s'informer plus facilement et peut-être créer des vocations pour aider.
Parfait, Nora. Donc Nora, qui est étudiante en biologie et santé et société, voilà. Et puis Naïs va prendre la parole.
Oui. Alors je voulais aussi rajouter qu'on avait comme action des clean walks, c'est-à-dire des marches pour le climat. Ça peut être corrélé avec l'ODD numéro 15, qui est la protection de la faune et de la flore. Et donc pendant ces marches du climat, on va se balader soit dans Nanterre, donc à côté du campus, soit dans Paris pour toucher plus de monde, et ramasser tous les déchets autour de nous, donc des mégots, des canettes, tout ça. Et ces clean walks permettent aux étudiants de se rencontrer, de s'engager de manière plus ludique peut-être pour la cause climatique, et de créer un vrai groupe écologique, écologiste, et de s'engager de manière collective. Et,
mais cette idée de devenir candidate aux élections municipales, vous avez un peu éludé le sujet.
Eh bien, c'est une idée à prendre en considération.
Naïs, t'as déjà tous les réflexes de la bonne politique, tu vas pouvoir être candidate. Mais
peut-être que Méline va rajouter quelque chose.
Méline, on ne sait pas si elle veut parler, si elle ne veut pas parler. Allez, Méline, là, tu n'as pas le choix.
J'ai toujours, en vrai, en parlant, ça me donne des envies. Et venant d'une toute petite commune,
c'est bien, ça.
D'une toute petite commune assez fermée, justement, sur les questions écologiques et sur l'environnement, c'est vrai que
on veut des noms.
est-ce que c'est forcément si c'est moi qui y vais et si c'est moi qui prends les choses en main, et que ça peut changer les choses à l'échelle de ma commune. Donc c'est sûr que c'est à tenter, et
écoute,
pourquoi pas.
Je pense que Pascal, tu voulais rajouter, ça correspond un petit peu.
Bon, allez, on t'écoute. Je voulais juste dire que du coup, au niveau d'AIODD, c'est l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. bon, qu'on a organisé ce colloque au Sénat avec le soutien d'un collectif, le collectif élu et ODD. Donc voilà, des magnifiques synergies qui ont permis en fait d'avoir des beaux retours. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était absolument génial face justement à une forme de morosité ambiante. Donc je pense qu'il y a,
alors,
il y a
vraiment une envie. Comment tu vas accueillir toutes ces candidatures de jeunes là qu'on va te générer?
Oui. Alors, avec grand plaisir. Mais en tout cas, je suis très contente du témoignage de ces jeunes. Bravo pour tout ce que vous faites. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Et AIODD agit en fait à 7 niveaux aussi avec les jeunes. 7 niveaux, j'ai bien dit. Sur la sensibilisation, les outils, les expériences. Mais aussi, par exemple, sur la prise de parole en public. Et là, on organise un colloque qui va avoir lieu le 4 avril au Palais des Nations Unies à Genève avec Sophia Strehwiler, la biographe du Dalai Lama et également Co-Initiative Changement et une quinzaine de partenaires.
Donc tu les invites à venir apprendre des cours de discours politique, quoi.
Non, en fait, on veut donner la parole aux jeunes. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de ce colloque, on a vraiment fait un focus énorme sur l'implication des jeunes et on leur donne la parole. Parce que tout le monde parle des jeunes, mais qui leur donne véritablement la parole et qui les écoute véritablement? Donc, on pense qu'il y a vraiment un défi.
Elles viennent de Nanterre, les jeunes ont su prendre la parole à Nanterre il y a quelques décennies, on en connaît un.
Fin mars.
Le 22 mars, oui. Bon. Mais,
oui, mais effectivement. Non mais François, c'est exactement ce que vous faites dans l'émission, c'est que vous leur donnez la parole. Et c'est génial, et c'est exactement ce qu'on veut faire nous à l'ONU. Donc en gros, on va accueillir 5 écoles, et à qui on va donner une tribune pour que des propositions soient faites, soient formulées, et qu'elles soient formulées aussi auprès de certains ambassadeurs de missions diplomatiques. Donc on va créer des échanges, et essayer de faire en sorte que les propositions de ces jeunes, à la fois les jeunes des écoles de la région...
J'imagine qu'on va pouvoir retrouver toutes ces propositions sur ton site internet, et... Et on peut inviter tout le monde à les taper. Alors, il faut consulter. Taper quoi? AIODD
Oui. Vous pouvez taper sur AIODD.org où on va centraliser les informations, mais c'est encore temps de s'inscrire et l'information pour participer au colloque est aussi disponible site de Co-Initiative Changement.
Écoute, Pascal, on te remercie beaucoup.
Merci à vous tous. Voilà, et bravo.
On te laisse dans tes belles savoirs. Et je passe la parole à Henri, qui a peut-être envie de creuser le sujet en tant que géologue.
Il est évident qu'on est face à un sujet complexe, qu'on n'avait pas forcément bien évalué, et sur lequel on voit que la nature, finalement, a pris le dessus sur l'homme, puisqu'on a cru, il y a 150 ans, que l'homme pouvait forger la nature. Et avec le dépassement de 8 limites planétaires sur 9, on est en train de se rendre compte qu'on risque de perdre la main. Donc il est fondamental de ne pas la perdre, cette main. Et pour ne pas la perdre à l'échelle globale, il faut être actif à l'échelle locale, puisque vous avez vous-même, dans vos témoignages, montré que vous attendiez des choses du haut et qu'elles n'arrivent pas forcément. Et finalement, le haut, qu'est-ce qu'il vous dit? On va essayer de faire un dialogue partie prenante, parce que les COP, c'est Committee of Parties, donc c'est discuter. Mais discuter de quoi et comment? Il faut que vous ayez cette culture. C'est-à-dire, quand on vient discuter, c'est pas comme autour d'un bar où on raconte un peu n'importe quoi. On vient avec des idées structurées. Et ces idées structurées, aujourd'hui, je crois que vous avez tous les éléments pour pouvoir les construire. Et témoignage, effectivement, de jeunes élus, qui sont intervenus le 28 février, expliquant qu'ils n'étaient pas de la bonne couleur politique, mais qu'ils ont quand même convaincu l'ensemble du collège municipal de prendre des initiatives de type objectif de développement durable, que d'autre part, non seulement ils ont fait boule de neige à l'intérieur de la commune municipale, mais finalement au niveau des intercommunales. C'est-à-dire que la dynamique, elle doit venir de la base, mais en ayant compris que le sujet était global.
D'accord.
Et c'est ce que vous venez de nous expliquer, finalement, dans votre raisonnement, chacune, avec votre vocabulaire.
Quelque part, Henri, tu lances un appel, on a l'impression qu'il peut être entendu, ça fait du bien. Je crois que, de toute manière, on a déjà prévu quelques émissions qui vont rebondir sur les ODD, et puis effectivement, ce grand... Il n'y a pas plus citoyen que les élections municipales, hein, tout commence de là. les arènes de l'écologie, c'est l'écologie citoyenne, ben on va être amené à en reparler. Et puis, on est très content de votre venue. Tu voulais rajouter, Ben, je crois que tu voulais...
Des arènes durables.
Des arènes durables, non, les arènes de l'écologie...
Les arènes du bonheur.
Ah, pas mal. Bon, en tout cas, mademoiselle, vous voulez peut-être rajouter un petit mot de la fin avant que j'annonce le prochain programme des émissions?
Moi, je veux bien adresser un dernier mot à nos auditeurs. N'hésitez pas à vous engager. Voilà, engagez-vous même si vous êtes jeune. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas de voix. Au contraire, c'est vous les acteurs de demain. Et c'est vous qui vivez les choses plus intensément au quotidien, donc n'hésitez pas.
Qui allez vous le prendre, voilà. Le réchauffement
climatique? Il y a plein d'associations dans vos facs, dans vos écoles.
Bon, bah, Naïs, elle parle pas souvent, mais quand elle parle, ça claque. Donc oui, bah, tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, on va parler bilan climat. On va fêter, donc, on va parler du 20e anniversaire de l'association ABC, Association Bilan Climat, avec...
bilan carbone.
Ouais, bilan carbone, oh là là, je fatigue. Excusez-moi.
ABC, non, c'est bien.
Voilà, et donc on aura sa présidente qui est professeure d'économie à Dauphine. On changera d'université, hein, mais bon, entre Nanterre et Dauphine, il n'y a pas loin. Bon, ben voilà, bah, écoutez, il me reste à vous souhaiter une joyeuse semaine, en espérant que l'agent orange ne nous fera pas trop de malheur ce coup-ci. Et puis, ben, il me reste à remercier la technique avec. Bah, nous, tous les aléas de la journée, on ne va pas dévoiler tous les détails, mais effectivement, on a eu un petit problème d'Internet qui ne nous a pas facilité les choses. En tout cas, merci beaucoup, merci à Armand, merci à Bruno, et puis, bah, allez, bonne semaine et bonne arène de l'écologie.
FM 93.1.